Chapitre 30. La commandante Marianne Ogresse attendait, énervée. Ses yeux guettaient successivement l'arrêt du tramway juste en face, les voitures qui défilaient sur le boulevard Georges V et même les optimistes et 420 qui naviguaient sur le bassin du commerce. Par où arriverait-il ? Et quand ? Elle détestait attendre ainsi, se sentir vulnérable, dépendante, alors que son quotidien ordinaire consistait à donner des ordres en rafale et à décider seule de ce à quoi elle occupait chacune de ses minutes. Surtout ici, pile devant le commissariat. Deux agents, Duhamel et Constantini, passèrent, dévalèrent les marches, sans même la regarder. Elle n'avait aucune idée d'où ils se rendaient. Ça l'agaça plus encore, ce manque de contrôle sur le va-et-vient de ses hommes, d'autant plus qu'elle manquait d'effectifs pour tout mener de front. Cette nuit, elle avait dû renoncer à laisser un agent toute la nuit devant la maison d'Alexis Zerda. Le dernier avait décroché vers 23h et un autre prenait le relais à 6h. On ne pouvait pas coller un flic derrière ce type 24h/24 pendant des semaines alors qu'on n'avait rien de concret contre lui. Sans parler de papy qui la tannait depuis ce matin avec... La Goody California pila devant le commissariat. La commandante ne reconnut Vasil Dragonman que lorsqu'il ôta son casque. Ses cheveux bruns décoiffés lui donnaient une allure de corbeau déplumé par la tempête. « Vous êtes en retard, monsieur Dragonman. » Vasil ne se donna même pas la peine de répondre. Il se contenta de descendre de sa moto, de se rapprocher de la commandante et de lui tendre le bras, jusqu'à ce qu'elle seule puisse voir l'objet qu'il tenait dans sa main. Un lecteur MP3. « Le gosse n'a rien inventé », murmura Vasil. Il expliqua en quelques mots les révélations de Malone. Le lecteur cousu dans la peluche, les histoires que l'enfant se passait en boucle chaque soir, écouteurs sur les oreilles, dans le secret de son lit. Un lecteur qu'il avait promis de rendre au môme le lendemain, devant l'école. La commandante Ogresse posa une main sur le capot de la voiture la plus proche. « Bordel, ça semble surréaliste !»« Pas tant que ça, en vérité. » La main de la commandante se crispa. « Je vous vois venir. Vous allez me refaire le coup des fantômes et du cerveau d'un gosse aussi facile à pétrir qu'une boule d'argile. Mais je vous parle d'autre chose, de ce lecteur MP3 et de ce doudou. Le gosse croyait vraiment que la peluche lui parlait ?»« Oui, je pense. Enfin, c'est plus compliqué en vérité. Cela fait référence à des théories de la psychologie du développement de l'enfant encore débattues. Des théories que je suis trop stupide pour comprendre ?» Vasil plissa le front, étonné. « Non, pourquoi ?»« Trop rationnel, alors ? Trop flic ? Pas assez mère ? Pas assez femme ?» Le psy hésita, fixa Marianne. Visiblement, il était plus à l'aise avec les névroses des gosses qu'avec celles des jeunes femmes. « Je ne sais pas, commandante. » Un silence s'installa. « Bon, alors allez-y, expliquez-moi !» Vasil prit une longue inspiration avant de se lancer. Eh bien, la question qu'il faut se poser si on veut comprendre la relation de Malone à sa peluche, c'est à partir de quand les enfants font-ils semblant, ou, plus exactement, ont-ils conscience qu'ils font semblant ? Ça commence bien, pensa Marianne en fronçant les sourcils, sans oser demander au psy de répéter. Vasil lui accorda un regard indulgent, puis reformula. Disons, pour partir d'un exemple concret, qu'à partir de 5 ans environ, une fille qui joue à la poupée sait qu'elle joue à la poupée, que c'est un jouet qu'elle tient entre ses bras, même si elle la berce et la câline comme un vrai bébé. Elle a pris conscience de la différence fondamentale entre la réalité et la perception de cette réalité, et elle peut jouer de cette différence à travers les codes sociaux. Jusque-là, vous me suivez, commandante ? Marianne acquiesça. Le psy continua. Je fais semblant de donner le biberon à ma poupée, mais j'ai conscience qu'elle ne boit pas vraiment et qu'elle ne va pas mourir si je ne la nourris pas. Je sais qu'elle n'est qu'un jouet, même si rien ne compte plus au monde que cette poupée, même si mes parents entrent dans mon jeu et parlent de cette poupée comme d'une personne réelle. Le jeu sert à cela, imiter, codifier, transgresser. À l'inverse, disons avant 3 ans, les enfants n'ont aucune conscience de la différence entre la réalité et leur perception de cette réalité. Par exemple, la vie et la mort n'existent pas réellement pour eux. Un ours en peluche est aussi vivant que celui vu au zoo. De même, le vrai et le faux ne sont pas des notions qu'ils peuvent différencier. Les choses existent ou n'existent pas, c'est tout. Impossible, par exemple, d'avoir une vraie et une fausse maman. Un enfant de moins de 3 ans aura une maman et éventuellement d'autres figures féminines qui s'occupent de lui, une nounou, une tata, une copine. Marianne profita d'une autre respiration pour jouer les élèves attentives. Donc, si j'ai bien compris, pour le petit Malone, sa pluche lui parlait vraiment, même si c'est lui qui appuyait sur les boutons. Vasile hocha la tête, donnant l'impression de chercher à peser chaque mot de sa réponse pour ne pas la vexer. « Ce n'est pas si simple, commandante. Comme je vous l'ai dit, cette prise de conscience de leur propre perception chez les enfants, cette distanciation cognitive, pour vous le dire en termes savants, s'effectue généralement entre 2 et 5 ans. Mais à quel moment se fait cette bascule fondamentale ? Entre 2 et 5 ans, on offre aux gamins les mêmes jouets pour stimuler l'imagination, la manipulation, la cognition. Des jouets d'imitation le plus souvent. Une voiture, des maisons, des déguisements, le docteur, le pompier, la princesse, le pirate. Des tas de marketeurs et de pédagogues travaillent là-dessus, et les gosses croulent sous les jouets supposés éducatifs après chaque Noël. Les gamins n'ont jamais autant été stimulés, mais la plupart du temps, on ne sait toujours rien de la boîte noire du gosse face à tous ces trucs colorés inventés pour lui. Joue-t-il ou non ? Sait-il qu'il joue ? Joue-t-il parce que nous rentrons dans son jeu ? Parce qu'il veut rentrer dans le nôtre ? Le psy marqua une pause avant de continuer, comme si la commandante face à lui était une étudiante qui tentait de prendre des notes au fil de ses démonstrations passionnées. Donc, pour en revenir à Malone, cela me semble limpide. À ses yeux, Gouty n'est ni un objet inanimé, ni un être vivant doté de sentiments. Ses mots n'ont pas vraiment de sens pour lui, il n'est pas capable de faire une telle différence. Malone n'a évidemment aucune conscience que son attachement à Gouty n'est lié qu'à la projection de ses propres émotions sur cette peluche. Mais un enfant de 3 ans a conscience de ce qui est interdit et de ce qui ne l'est pas. La grande différence entre Gouty et une peluche ordinaire n'est pas qu'il parle, écoute et raconte des histoires. N'importe quelle chose le fait aussi aux yeux de Malone, une télévision, une radio ou un téléphone. La différence fondamentale, c'est que la maman de Malone lui a interdit de révéler le secret de sa peluche, de dire que son doudou parle, écoute et raconte des histoires. Et un enfant, même très jeune, sait très bien faire cela, obéir. Il n'a aucune conscience de ce qui est bien ou mal. Cela vient bien plus tard, même s'il faut leur expliquer le plus tôt possible. Mais il sait ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire, comme n'importe quel animal que l'on dresse. C'est ensuite que tout se complique quand il s'agit de faire coïncider le bien et le mal avec ce qui est permis ou interdit. Mais heureusement pour Malone, il n'en est pas encore à cette étape. Un sourire satisfait et deux yeux frondeurs conclurent l'exposé. Le temps de la démonstration, la commandante en avait presque oublié les allées et venues de ses collègues devant le commissariat. Ce garçon la fascinait, à moins que ce ne soit tout simplement une passion pour tout discours se rapportant à la petite enfance. Un vieux psy, chauve et bigleux, l'aurait peut-être tout autant subjugué s'il avait développé les mêmes théories. « D'accord », fit Marianne en se forçant à revenir à des éléments plus pragmatiques. « Je vous suis sur Gouty et je retire le mot surréaliste. Selon vous, depuis combien de temps dure-t-elle cette relation secrète avec Malone ?»« Une dizaine de mois, sans doute. » Ce qui signifie que Malone a écouté chacune de ses histoires plus d'une trentaine de fois, qu'elles sont devenues sa réalité, la seule qu'il connaît au fond. Avec sa vie quotidienne, tempéra Marianne. Avec son école, sa famille. Elle observa le lecteur MP3 au creux de sa main. Vous avez eu le temps d'écouter ? Oui, ce n'est pas très long. 7 histoires de quelques minutes chacune. Et alors ? Deux agents rentraient dans le commissariat en direction de l'accueil. Ils saluèrent la commandante, tout en jetant un regard un peu étonné à la Guzzi garée à cheval sur le trottoir et au type en grande conversation avec la commissaire. Je n'ai toujours aucune certitude. Des pistes, seulement des pistes. Ce sont toujours les mêmes obsessions qui reviennent, la forêt, la mer, le bateau, les 4 tours du château. De façon codée, mais plus précise aussi. J'ai pu avancer sur les lieux possibles. Dans quelques heures, je devrais avoir fait le tour des rares endroits qui correspondent à la maison que Malone habitait, avant. Il se pencha vers le porte-bagages. La commandante crut qu'il allait déplier sa carte annotée devant le commissariat. « À moins, » ajouta-t-elle un peu sèchement, « qu'il ne s'agisse de souvenirs entièrement fabriqués. Que le petit Malone n'ait jamais vécu au bord de la mer ou d'une forêt. Non. Il y a un sens, une cohérence, j'en ai l'intuition. » C'est mon travail de la découvrir. Par contre, le vôtre, c'est... » Il ne termina pas sa phrase et ouvrit le porte-bagages à l'aide d'une clé miniature. « J'ai un autre cadeau pour vous, commandante. » Il sortit, enroulé dans un mouchoir en papier, un petit verre d'enfant sur lequel on reconnaissait la fée Clochette et ses copines. Malone a bu dedans ce matin. « Et alors ?»« C'est la seule façon de savoir si les moulins sont ses parents, non ?»« Un test ADN. Ça devrait être simple pour vous. » La commandante soupira tout en se tournant vers le bassin du commerce. Des gamins vêtus de gilets de sauvetage orange, tous semblables, attendaient de monter dans les optimistes. Leurs cris se mêlaient à ceux des mouettes. Vasile attendit, déçu de l'absence de réaction de Marianne. Paradoxalement, c'est au moment où il lui agitait des preuves sous le nez que la commandante semblait le moins sensible à son numéro de charme. « Non, ce n'est pas simple, monsieur Dragonman. Il faut une plainte officielle pour procéder à une telle analyse, une commission rogatoire ordonnée par un juge. » Le psychologue scolaire haussa le ton, puisque le charme n'opérait plus. « Et vous allez reculer devant l'article 36 bis du Code de bonne conduite du parfait flic de France ?» Vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous croyez? En vous fournissant toutes ces preuves, j'ai trahi les règles les plus élémentaires du secret professionnel. J'ai pris des risques, commandante, des sacrés risques. L'image de la tombe s'incrusta devant ses yeux. La commandante ne sembla pourtant guère impressionnée. N'en prenez plus alors, monsieur Dragonman. Puisque si on réfléchit, votre seul argument vient de tomber. Elle observa le lecteur MP3 au creux de sa main. Il n'y a plus d'urgence. On sait désormais que le petit Malone Moulin n'oubliera pas ses souvenirs. Ils sont stockés sur son disque dur, qu'il s'agisse ou non des siens, d'ailleurs. À son tour, le regard de Vasile s'attarda sur les enfants devant le bassin. Certains riaient, d'autres pleuraient. Plusieurs se tenaient à l'écart, tétanisés devant les petits voiliers où ils devaient monter. Commandante, ce gosse fait des cauchemars chaque nuit. Il ne ferme pas les yeux car il préfère encore la nuit noire à l'écran rouge derrière ses paupières. Il pense que les gouttes de pluie sont en verre et coupent, qu'il sera déchiqueté si elles l'atteignent. Et vous me dites qu'il n'y a plus d'urgence ? Il avait encore haussé la voix au moment où Benami, Bourdaine et Letellier entraient, enjambant 4 à 4 les marches, main sur l'arme à leur ceinturon. Des intuitions contradictoires se bousculaient dans la tête de Marianne. Elle sentait qu'elle ne devait pas laisser la situation s'enliser. Pas ainsi. Surtout pas ici. Pas devant le commissariat, avec ce type. Seul. Sans même une cigarette à la main pour lui fournir un prétexte. La main de la flic s'ouvrit à la hauteur de la poitrine du psychologue. Confiez-moi ce verre, et on va analyser ce MP3. Si besoin, on demandera au procureur de la République d'ouvrir une enquête préliminaire. Elle marqua un silence. On sera rapide et efficace, ne craignez rien. Vasile Dragonman lâcha un sourire de vainqueur qui n'en rajoute pas. Lorsqu'il enfila à nouveau son casque, Marianne ne put s'empêcher de laisser traîner les yeux sur son jean slim, son cuir marron et ses yeux assortis qui disparurent derrière sa visière. Têtu, malin, impertinent, sûr de lui et arrogant. Exactement comme elle aimait les hommes. Tout en serrant le MP3 dans sa paume, elle se força à ordonner ses pensées dispersées aux quatre coins de son cerveau depuis le matin. Malgré sa promesse au psychologue scolaire, elle devait conserver le sens des priorités. Coincer Tim au solaire. Répondre à Papy aussi. Le lieutenant Padelou s'était mis dans la tête de mener une contre-enquête sur Ilona et Cyril Loukovic. Des zones d'ombre avait-il laissé entendre mystérieusement. Il voulait retourner la terre d'un sillon que les flics de Deauville et de Caen avaient déjà creusé sans aucun résultat depuis des semaines. Papy en était un autre de ces hommes, têtu, malin, impertinent, sûr de lui et arrogant. Sauf que celui-là, elle en avait besoin, ici et maintenant. Commandante. Marianne leva les yeux. C'était Dragonman. Il n'était pas encore parti. Visière relevée, juste ses yeux. Comme deux lasers. J'ai une dernière question à vous poser. Vous pourrez peut-être m'aider. Oui ? Elle va vous sembler bizarre. Elle me taraude depuis des semaines sans que je trouve de réponse satisfaisante. J'ai pourtant l'impression qu'elle est capitale. Presque la clé de tout, peut-être. « Allez-y !» fit la policière, agacée. Il sortit de sa poche une photographie. C'est Goutti, le fameux doudou de Malone Moulin. À votre avis, cette peluche, c'est quoi comme bestiole? Il laissa ainsi la commandante interloquée. L'instant d'après, il démarrait sa Goutti California et remontait le boulevard Georges V. Il disparut rapidement. Le trafic était fluide. Pas assez cependant pour qu'il remarque le Ford Kuga déboîté des stationnements latéraux et s'engager dans la rue quelques secondes après lui.